Salut Alex.
Salut Charline.
Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive?
Je suis comme un fou, on reçoit une légende du cinéma.
Ah ouais, super.
J'ai plus été excité comme ça depuis l'avenue d'Isabelle Aubray.
Ah oui, quand même.
Ah non, elle a joué pour Visconti, Godard, Cukor, Fassbinder. Alors écoute ce qu'on dit d'elle au Festival de Cannes 66.
Anna Karina est cet étrange petit animal, made in Danemark, au teint de caviar blanc, à l'œil d'aquavite bleu, si longtemps considérée comme une animatrice de films d'amateurs, favorisée par le hasard, et qui vient d'un seul coup de prouver qu'elle avait sa place parmi les meilleures actrices de sa génération.
Oh, c'était pour quel film?
Et le film de Jacques Rivette.
La religieuse.
Ben oui, alors justement, alors attention, le titre exact c'est Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot.
Ah ben, le roman de Diderot c'est bien la religieuse.
Oui, mais alors comme il y a eu des problèmes avec la censure, tout ça à la sortie, ils ont adapté le titre et d'ailleurs Rivette en parle.
Moi je suis d'accord si on dit que le vrai titre c'est Suzanne Simonin. Puisque surtout on a vraiment centré sur le personnage principal joué par Anna et c'est Anna quand même qui fait le film.
Il le dit, c'est elle qui fait le film.
Ça, on va lui en parler.
Oui, en plus, mais c'est même pour ça qu'elle vient. C'est pour la restauration du film qui ressort.
Ah bon,
oui, en pleine période de la liberté des femmes, le choix de cette religieuse.
C'est Suzanne Simonin, tu veux dire.
Ah, bien, ça c'est très très vigilant. Je vais bientôt pouvoir te donner les clés de l'émission.
Ah oui, très bien, chouette.
Non, c'est Suzanne, c'est même pas qu'elle a pas la foi, c'est juste qu'elle veut pas être enfermée.
Mais je comprends, oui. Donc c'est pas un film sur l'athéisme.
Et c'est plus que ça.
Et Rivette, il était croyant.
Ah, bonne question. On lui a posé d'ailleurs à Cannes en 66 et il a la meilleure réponse du monde.
Est-ce que je peux vous demander si vous croyez en Dieu?
Pour le moment, non.
Pour le moment, non. Le gars est brillant.
Bonjour la France Inter, bienvenue à l'écoute du service public qui vous sera bientôt prélevé directement à la source. Et voici les trois actualités que nous avons trouvées tout simplement en traversant la rue. Partout dans le monde, le droit à l'avortement est remis en cause, en Pologne, aux États-Unis, mais aussi en Belgique où une loi en préparation pénalisera de nouveau les femmes, tandis qu'en France, le président du syndicat des gynécos compare l'IVG à un homicide. Quid de l'homicide de confort alors?
Il va être beau parce que sinon j'avorte.
Les Gaulois réfractaires à Netflix ont leur plateforme internet, la Cinétech, avec un K, propose des centaines de classiques, tous recommandés par des réalisateurs. Donc ici, l'algorithme, c'est le créateur et le choix est immense. Au Danemark, une école maternelle sur 5 emmène les enfants en forêt pour couper du bois et grimper aux arbres. Ils manient la scie et le couteau, ils apprennent la nature et la confiance en soi.
Je vais envoyer 3 mois à poil dans la forêt à bouffer des asticots et des racines. Et puis je vous garantis que quand il reviendra, il fera moins de poèmes.
Voilà, alors lui, mon partenaire, il n'a pas l'âme d'un Davy Croquette.
Non.
Il est plutôt moule frite.
Oh, c'est
brillant. J'ai osé. Allez,
c'est brillant. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Eh bien, malgré tout, je vous offre une belle équipe. À 17h20, celui qui, lorsqu'il commence une chronique, peut être surnommé Hippo le Fou, c'est Hippolyte Girardot.
Bonjour.
De quoi on va parler?
On va parler de la mobilette et de Monsieur Tard.
Très bien. À 17h30, celui qui a mis le feu à la fête de l'UMA, et Dieu sait si c'est dangereux tant le public est imbibé, c'est vous Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous, moi je vais vous parler emploi aujourd'hui, puisque Macron a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour en trouver. Et ça a plutôt apaisé les chômeurs qui cherchent du boulot. Avec du boulot.
Oui, enfin apaisé, on n'est pas dans la zélitude non plus.
Et enfin 17h40, celle qui n'aime pas trop la nouvelle vague parce que ça fait beaucoup d'eau d'un coup, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Personne n'a dit que c'était de l'eau la nouvelle vague. Pardon, il y avait quand même Chabrol.
C'est pas faux. De quoi on va parler?
De femmes noires qui marchent dans la nuit dans les années 80, 90 et 2000 et qui en meurent.
Bah dites donc.
Ambiance.
Bonne ambiance.
Et voici celle qui va enflammer l'open space. Vous êtes, on va vous laisser nous le dire. Qui êtes-vous? Vous êtes
Anna Karina.
Oh, ah mais oui. Merci, mais bien sûr.
Par je me disais bien. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Sur France Inter.
Anna Karina, on n'arrive même pas à le croire. Moi, qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment vous?
Mais rien.
Ouais, c'est ça le problème.
Chercher sur le net.
On va s'en assurer.
Parce qu'on a eu Brigitte Bardot la semaine dernière, puis on s'est rendu compte que c'était Michel Dobré à la fin. Donc,
Anna Karina, on va être sûr que c'est vous en discutant avec vous de la religieuse. Suzanne Simonin, la religieuse, le film de Jacques Rivette qui ressort en salle et qui ressort aussi en DVD en version restaurée. Alors, on l'a un petit peu évoqué dans le sketch au début. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié quand le film
film sort 65. Il est censuré suite à une plainte du clergé. Alors Chabrol, Truffaut et Godard se mobilisent contre la censure. Godard interpelle notamment Malraux, ministre de la Culture, qu'il écrit avec un K et UR.
Oui, avec un K.
Le film reçoit enfin une autorisation pour être projeté au Festival de Cannes en 66 et c'est seulement un an après que l'interdiction est levée. Ce film est donc restauré en, on dit, 4K très haute définition. Alors, on rappelle, ça part du roman de Diderot, adapté par Jacques Rivette, le tout étant ultra HD. Anna Karina, est-ce que vous avez vu le résultat de cette restauration? Est-ce que la religieuse est devenue Star Wars?
Ah non, je crois pas, mais évidemment, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très beau. Je dois dire que la restauration, c'est impeccable, ouais. Magnifique, super.
Qu'est-ce qui vous a frappé?
Mais les couleurs sont bien ressorties. Mm-hmm. Voilà, il y a eu un travail extraordinaire. Là. Mm-hmm. C'est rare de voir ça à ce point-là.
Ouais. Le son aussi, parce que moi, j'ai les revues en DVD, mais version non restaurée. Et quand les cloches sonnent, et elles sonnent souvent, on est dans un couvent, elles couvraient parfois même presque les dialogues, comme pour imposer la présence de Dieu, le carcan, etc. Même au niveau sonore, tout est sublimé dans cette version.
Impeccable. Voilà.
Alors, est-ce que l'œuvre, elle reste contemporaine, elle ressort aujourd'hui non seulement en DVD mais aussi en salle. On le disait tout à l'heure, dans un contexte de révolution féministe, ce plaidoyer aussi pour la liberté d'expression, ce film, il reste fondamentalement contemporain.
Mais écoutez, à l'époque, ça a été tellement éreinté et tellement blasphème et tout, et tout, et tout. Et là, quand même, moi, j'étais très surprise qu'on le ressorte maintenant, si longtemps après, parce que ça fait quand même, c'est pas, fait un bail, hein, mm-hmm. on peut dire. Et c'est magnifique. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est que Rivette n'est pas là pour participer à tout ça, quoi.
Comment vous expliquez qu'à l'époque, parce qu'il y a eu une pièce de théâtre avant, oui. qui n'avait pas fait le retentissement et l'angoisse des censeurs, parce que le film a été censuré avant même d'exister, quasi. Donc comment ça se fait que c'est vraiment l'image ou le cinéma qui faisait peur?
J'en sais rien, mais au théâtre, et tout le monde a trouvé ça génial et tout. Et j'ai même mis un petit prix de la radio, là.
Bien.
Voilà, comme la meilleure débutante de l'année. Et c'était sympathique, Brigitte Bardot venue, Alain Cuny, et plein d'autres sont venus là voir la pièce et personne n'a rien trouvé à dire, quoi. Mm-hmm. Et là, le film, on le fait quelques années plus tard. Moi, je connaissais bien sûr le texte par cœur puisque je jouais au théâtre et là, alors ça, il est présenté à Cannes et c'est le scandale, voilà.
Mais c'est presque un buzz parce que résultat, les gens ont attendu ce film et se sont précipités dès qu'ils ont eu le droit.
Une fois que le film est sorti, évidemment, ils sont venus de partout, d'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de toutes parts, peut-être même de la Belgique.
Sans doute. Quelle est sa place pour vous dans votre cinématographie? Est-ce que c'est, vous le classez dans votre top 3 ou c'est numéro 1?
Mais non, parce que j'ai beaucoup tourné de films avec dans des rôles très 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 différents.
Et avec les plus grands réalisateurs.
Et avec Jean-Luc Godard, évidemment. Non, je dirais qu'on peut pas comparer, voilà. Parce que c'est tellement différent à chaque fois.
Mais c'est un des trois dont on vous parle le plus, peut-être aujourd'hui encore.
Oui. Oui, peut-être.
C'est ça qu'il est ressorti en scène.
Il a sorti aux États-Unis aussi.
Ah bon?
Ah oui, oui.
C'est bien, avec sous Trump, c'est une bonne idée, moi, je trouve.
Il faudrait l'inviter, alors.
Il était déjà ressorti en salle, je pense, dans les années 80, et dans peu de salles, et il avait fait un score extraordinaire. Et il y a une chose qui m'a assez amusée, c'est que quand vous racontez votre première rencontre avec Godard, vous dites, il m'a proposé un petit rôle dans À bout de souffle.
C'est vrai.
Mais une femme qui enlève son t-shirt devant Belmondo et vous vouliez pas montrer vos seins. Résultat, vous êtes censuré avec la religieuse.
C'est ça, oui.
Tout ça pour ça.
Comme quoi, la vie, hein.
Donc le film de Jacques Rivette, hein, Suzanne Simonin, La religieuse, ressort donc en salle, en DVD, en version restaurée, impec, comme dirait Anna Karina. Le résultat est magnifique, donc vraiment en très haute définition. Et tiens, je signale aussi qu'en février est sorti le CD « Je suis une aventurière », Anna Karina, avec les chansons des films dans lesquels vous avez joué, que vous interprétez, « Sous le soleil exactement » ou « Roller Girl », parce que la chanson, c'est aussi Anna Karina. Et là, par exemple, on va vous écouter avec Philippe Catherine.
Ah oui, donc qu'est-ce que je peux faire, c'est pas quoi faire.
Votre partie d'improvisation dans Pierrot le Fou.
Qu'est-ce que je peux faire?
Je sais pas quoi faire.
Je chante tout le temps dans mes appartements,
comme dans une musicale comédie
de Vincent Minnelli. What can I do?
I don't know what to do.
Y'a toujours un emmerdements,
y'a toujours une étoile qui nuit au milieu de la nuit.
Quand tu es triste,
je suis triste.
Oui, c'est vrai. Quand tu es gay,
je suis gay. Mais il me suffit de chanter cet air que vous reconnaissez.
C'est quoi cet air?
C'est un air de rien, un air de famille, un air de bœuf.
Oh
oui.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli. What can I do?
I don't know what to do.
Y'a toujours un printemps dans mes emmerdements. Y'a toujours une étoile qui luit de la nuit. La 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 la
la la la. Karina avec Philippe Catherine. Et vous savez quoi? Elle est avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h.
Vous êtes là. Chanteuse là? Mais je me suis laissé dire que dans La Religieuse, il y avait peut-être une chanteuse qui aurait dû s'y trouver, c'est vrai ça? Mireille Mathieu aurait dû avoir un rôle dans La Religieuse?
Tout à fait, oui. Alors elle est venue pour, avec sa sœur pour faire de la figuration.
Ouais.
Et là, Rivette a dit très bien, etc. Vous faites de la figuration. Et puis, elle n'a pas pu venir après, parce qu'elle était convoquée chez Guy Lux, pour la télé. Non, mais c'est vrai.
C'est
et comme elle avait déjà gagné une ou deux fois, il fallait qu'elle se représente. Et puis, elle a fini par gagner. Voilà.
Vous
et c'est comme
chance.
Ça qu'elle a démarré. Oui.
Sinon,
elle
n'a
pas joué dans La Religieuse.
Bon.
Sinon, on aurait vu Mireille Mathieu, peut-être, dans La Religieuse.
En train de se flageller, peut-être.
Ah, mais ça, elle foutrait. Elle voit beaucoup d'imagination.
Anna Karina avec nous. Et oui, Suzanne Simonin, La Religieuse, le film de Jacques Rivette, ressort tout beau, tout frais, tout restauré dans les salles et en DVD. On ne peut que vous le recommander pour votre DVD tech. Alex,
oui.
Qui a-t-il pour entourer Anna Karina aujourd'hui?
Eh bien,
aujourd'hui
je vois Hippolyte Girardot, je vois Guillaume Meurice et Juliette Arnaud, par ordre d'apparition.
C'est vrai.
Et on va faire un petit point sur l'information.
Ah, là. L'actualité.
Attention.
Je traverse la rue, je vous en trouve. Je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Le journal de presque 17h17.
Tu m'as porté mon cul, je n'étais pas content, t'as qu'à doubler.
On commence par les titres.
En marge des journées du patrimoine, Emmanuel Macron a fait la leçon à un jeune homme sans emploi, suggérant qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un boulot.
Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, faites comme Macron. Lui, pour choper du boulot, il a d'abord regardé à gauche, puis à droite.
1800 postes seront supprimés l'an prochain dans l'éducation nationale.
Oui, bah c'est pas très grave. En face des écoles, bah y a bien des hôtels, des cafés, des restaurants, des chantiers dans les... Y a qu'à traverser.
Et des brèves.
Mais bien sûr, les brèves, faut même pas traverser. Vous les trouvez des fois sur le trottoir,
oui,
où vous êtes.
Oui, c'est bien ça, le... on marche dedans.
Oui, c'est ça.
Pardon, Alex. Oui, c'est la phrase du week-end. Il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot.
S'il avait su Manuel Valls, le pauvre, il a dû traverser la frontière, lui. Il serait resté.
Évidemment. Qu'il a fait, d'ailleurs.
Mais oui, on en est débarrassé, temporairement.
Qui les reste, on dirait. Et évidemment, quand Macron dit une connerie, qui entend du génie là-dedans ?
Christophe Castaner, bien entendu. Il était sur RTL dimanche et il a pointé, lui, plutôt le doigt sur l'orientation.
Peut-être qu'on ne lui a pas dit à ce jeune homme qui avait une passion, celle de vouloir être horticulteur, mais qui, au fond, on ne lui a pas indiqué qu'il allait vers une impasse.
C'est quand même fort de critiquer un jeune qui s'oriente vers une impasse professionnelle quand soi-même on a commencé sa carrière au Parti Socialiste.
Allez, la boutique de l'Élysée prétend avoir vendu pour 350 000 euros de produits en 3 jours et en top des ventes en ligne, on trouve notamment le mug Élysée.
Eh oui, un mug, symbole ultime du gouvernement qui boit la tasse.
Oui. Et selon... C'est validé par Anna Karina. Et selon Quotidien, la personne responsable de la mise en place de cette boutique à l'Élysée n'était autre que Alexandre Benalla.
C'est pas vrai.
Il est partout.
Le problème, c'est qu'il suffit pas de traverser la rue. Ouais. Il faut encore arriver avant que Benalla ait pris l'emploi. Parce que
tous les emplois. Passons à Brigitte Macron.
Oui, Brigitte Macron. Attention, hein, une concurrente pour vous. Elle a commencé une carrière de comédienne dans la série Vestiaire sur France 2. Chouette programme court sur le handicap. Et elle se débrouille pas mal. Je vous donne juste la fin de l'épisode. Elle s'adresse aux autres comédiens en partant.
Merci pour ce moment.
Eh ben dis donc, ça rigole bien, l'Élysée.
Et revenons à du sérieux avec l'affaire Fillon. D'après le JDD, il n'aurait pas reçu que des costumes de la part de Robert Bourgi. Il aurait aussi reçu des chemises.
Eh ben, my Taylor is not rich, my Taylor is very, very rich.
La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, veut que la redevance télé soit... déconnecté de la détention d'un téléviseur dès 2020.
Eh oui, elle est bien payée par les Français alors qu'elle est complètement déconnectée d'eux-mêmes. Et donc oui, c'est très juste.
Cohérent. International, le pape François a déclaré à Palerme « On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux ».
Eh oui, apparemment, il ne connaît pas François Fillon.
People toujours, au beau milieu d'un aéroport, Kev Adams et Jamel Debbouze rejouent la bagarre entre les rappeurs Booba et Caris.
Eh oui, voilà, encore des humoristes français qui se livrent à du plagiat. Eh ben, c'est pas bien, c'est pas bien.
Sport, oui. Un joueur de football américain se change et prend sa retraite à la mi-temps d'un match.
Oui, c'est le Nicolas Hulot du foot US.
Et des brèves.
Oui, alors ça c'est fou. L'auteur du livre « Comment tuer son mari » est accusé d'avoir tué son mari. Je rappelle qu'Éric Zemmour a écrit « Le suicide français ». On t'attend mon pote, on t'attend.
Et la dernière.
Ah, la dernière, un petit cadeau pour tout le monde. Anne Hidalgo a investi dans un clip musical pour enrayer un grand fléau. Le clip s'appelle « Pas pipi dans Paris.
Je dis merci, encore et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi.
Pas pipi, pas pipi.
Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris.
La petite goutte.
Ouais, c'est joli.
Oui, on ne sait pas ce qu'elle prend, Hidalgo, mais c'est de la toute bonne. Par là, c'est quand même un vrai fléau. Hein, donc, elle demande aux gens d'arrêter de faire pipi.
Pardon, Anna Karina, mais c'est pas nous, c'est
la mairie.
Gens,
hein. C'est pas les gens, c'est les
garçons.
Hommes.
Oui, voilà. Oui, ok.
Non,
c'est
aussi
des gens.
C'est mieux de préciser.
Anna Karina est avec nous, Suzanne Simonin, la religieuse qui ressort en DVD. Donc, on s'est dit, on va faire un sujet droit à l'avortement. Parce que le droit à l'avortement reste un combat quotidien, puisqu'il est sans cesse remis en cause dans le monde. Aux États-Unis, bien sûr, avec les pro-life chez Trump, en Pologne, aussi en Belgique en ce moment, au cœur de l'Europe, où l'IVG n'est toujours pas un droit et où une nouvelle loi, qui va passer en commission de justice mercredi, pénalisera de nouveau les femmes. Tandis qu'en France, c'est carrément le président du syndicat des gynécos qui considère l'IVG comme un homicide, donc le débat est posé en ces termes.
Tu es pour ou contre l'avortement ?
Toi et toi ?
C'est difficile comme question, ça.
Bah, disons que si la femme est enceinte, je suis pour. Salut. Par contre, si elle ne l'est pas, c'est inutile qu'elle se fasse avorter. Enfin, je pense.
C'est Rrr, le film d'Alain Chabat. Alors, Anna Karina, vous qui aimiez beaucoup Simone Veil, au point de l'arrivée présidente de la République, ce retour en arrière dans beaucoup de pays et ces déclarations, comme le président du syndicat des gynécologues obstétriciens qui dit qu'il n'est pas là pour ôter la vie et qui compare toujours l'IVG à un homicide, on se dit c'est violent pour nous, pour toutes les femmes, mais on se disait avec Juliette, c'est encore plus violent pour vous, pour votre génération qui a lutté pour l'obtenir, non ?
C'est vrai, hein, c'est grâce à Simone Veil que, là, que ça a été voté. Voilà. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec Simone Veil, c'est une femme extraordinaire. Et voilà, je rigole pas.
Oui, oui, je me doute. Non, on n'est pas là pour rire non plus à ce niveau-là. Hein.
Et parce que voilà, ça dépend. Voilà, il peut arriver des trucs, voilà, comme des viols, des trucs. Et, et qu'il y a des petites filles qui se font avoir aussi. Il faut quand même voir un peu. Hein. Évidemment, c'est pas magnifique, mais c'est pas non plus un crime.
Et il faut que ça reste un droit, bien sûr.
Il y a un droit, voilà, je suis d'accord.
Et vous voyez, vous observez, est-ce qu'on est assez con que pour être en train de faire machine arrière dans certains pays, et qu'en France, on s'est dit c'est un droit, ça y est, on l'a et on se bat plus pour le maintenir. Et puis on voit que même au niveau du syndicat des gynécos, il y a quelqu'un qui compare toujours ça à un homicide. Est-ce que vous pensez qu'on est assez con pour pouvoir revenir en arrière et qu'il faut rester vigilant ?
Sans être con, on peut peut-être se poser la question différemment. Quoi. Il faut voir dans quelles circonstances quoi, ça se passe. Voilà.
Et pour la censure, est-ce que vous pensez qu'on peut y revenir aussi quand on voit toute l'histoire qu'il y a autour de la religieuse ? Est-ce que là, c'est acquis aujourd'hui, le film, il ressort en salle, en DVD, sans souci, on se pose plus la question de le regarder, de s'insurger.
Moi, c'était exagéré à l'époque aussi, parce que Diderot l'a quand même écrit il y a plusieurs siècles. Et,
c'est vrai.
Et donc, c'était, je sais bien que le livre était interdit pendant 100 ans à l'époque, parce que bon, c'était une autre époque aussi. Et probablement une autre façon de penser, mais là, nous, on est complètement tombés de nus parce que on l'avait joué au théâtre, quand même.
Ouais.
Et les gens sont venus applaudir, ils étaient contents et tout, ils pleuraient et tout. Et puis, on le fait au cinéma, et voilà, tout à coup, c'est blasphème, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait, c'est presque un crime, c'est...
Heureusement que Mireille Mathieu s'est pas retrouvée là-dedans, avec elle.
Oui. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il valait mieux qu'elle aille gagner chez Guilux.
C'est vrai, pour, voilà, clore le sujet. Donc, en Belgique, capitale de l'Europe et pays progressiste en matière d'éthique et de loi sociale, il y a un accord de gouvernement entre les nationalistes et les catholiques, et donc, une entourloupe pour ne pas sortir vraiment du code pénal l'IVG, et donc soyons vigilants et regardons comment cette loi va évoluer, car c'est toujours pas un droit, figurez-vous. En Belgique, moi je l'ai appris aujourd'hui.
Et en France c'est un droit, mais c'est très difficile d'avorter en France.
Voilà.
Et en province, ça l'est encore beaucoup plus.
Voilà.
Voilà. Donc si déjà vous avez du mal à avorter à Paris, sachez que quand vous vivez en campagne, c'est encore plus merdique parce qu'il y a moins d'hôpitaux et que
Tout le monde le sait et tout ça cause.
Et voilà pour ce sujet. Hippolyte Girardot est avec nous.
Bonjour.
Anna Karina, chers auditeurs. Hippo, le lundi, c'est un plaisir.
Alors voilà, je voulais revenir sur Rachid Taha, voilà, qui est passé donc la semaine dernière. Ça m'a fait bizarre parce que j'avais écrit une chronique pour lui il y a un an ou deux. Il était invité ici et dernier moment, il n'a pas pu venir. Donc je l'ai raté. Et c'est con parce que je voulais lui dire toute mon admiration et lui dire qu'il avait tout compris. Il avait bien vu la maladie endémique de ce pays. Par exemple, je me souviens quand il avait repris 12 francs, la chanson de Charles Trenet, il l'avait si bien vu que toutes les radios à l'époque l'avaient boycotté. Alors, ce qu'ils avaient fait, Carte de Séjour et lui, ils avaient distribué le 45 tours aux députés de l'Assemblée nationale. Et c'est assez drôle, on peut imaginer Balladur écoutant 12 francs avec Derbouka et Youyou dans son appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement, tu vois. Mais Edouard, mais c'est quoi cette horreur? C'est une chanson de Charles Trenet, ma chérie. Charles Trenet, l'homosexuel. Oui, oui, mais dans sa version arabisante. Edouard, mais vous voulez me faire mourir? Arrêtez ça tout de suite. Oui, Rachita avait aussi bien vu le truc quand il avait prévenu que la marche des beurs, à l'époque, allait être récupérée à des fins politiques. À leur arrivée, je sais pas si vous vous en souvenez, mais 8 d'entre eux, de ces jeunes types, étaient reçus par un président socialiste qui avait promis, lui, un an avant, le droit de vote des étrangers aux élections municipales, après 5 ans de présence sur le territoire français. Hein, c'était en 1983. Voilà, alors ça, ce droit de vote des étrangers, c'est un machin électoral des présidents, un peu comme le plan anti-pauvreté, ils le font tous une fois. C'est un truc qu'on sort tous les 4 ans pour agiter le bocal un peu rance de la pauvre France et qu'on remet au placard vite fait. Parce qu'en France, en fait, on a peur du mélange. Voilà. Et M. Rachid Tal avait compris et refusait tout à fait les étiquettes communautaires et communautaristes. Mais là, c'était une bataille à la Don Quichotte. Il suffit de voir en 2018 comment le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, recule à toute vitesse quand il affirme qu'on peut enseigner l'arabe à l'école. Mon Dieu, le chinois, oui, le russe, oui, mais l'arabe, non. Et pourtant, en France, à peu près 5 à 6 millions de personnes ont eu la langue arabe à peu près comme langue maternelle. Voilà, c'est quand même fantastique. À ce propos de langue maternelle, une chroniqueuse que je ne connaissais pas, que j'ai découverte, qui s'appelle Nadia Dame, qui paraît-il est très connue, a raconté sa propre histoire, c'est assez émouvant, dans une chronique de Slate cette semaine. Quand elle était petite, elle avait honte de parler arabe avec sa mère. Et si elle avait été anglaise, être bilingue eût été chic. Mais arabe, non. Donc elle a refusé cette langue et comme elle l'écrit, je l'ai refusé avec succès. Puisqu'à 16 ans, je ne comprenais plus un mot et étais incapable de produire certains sons et locutions pourtant issus de ma langue maternelle. L'arabe avec lequel ma mère m'avait bercé, la langue avec laquelle je communiquais avec mes petits cousins les vacances ou bleds venus, les interjections, les gros mots, les formules de politesse en arabe, tout avait disparu pour ma plus grande fierté à l'époque, disait-elle. Et elle dit aussi qu'aujourd'hui, quand je me rends au Maroc dans ma famille, je ne pige pas un mot de ce que mes tantes ou mes cousins me disent. Je regarde ma mère avec un air éploré pour qu'elle me traduise, alors qu'il y a 20 ans, je levais les yeux au ciel quand elle me parlait arabe. Vous avez reconnu, c'est Rachid. Mais fidèle à son idéal, Rachid Tal a travaillé avec des artistes étrangers, toujours avec cette idée du mélange. Le cinéaste Ridley Scott a pris une de ses chansons comme emblème de l'énorme gâchis d'une opération foireuse des Nations Unies à Mogadiscio. Pas sûr que les milliers de spectateurs aient compris l'arabe, mais moi je pense qu'ils avaient entendu le message. Dehors, dehors, il n'y a plus ni bien, ni joie, ni destin. Dehors, dehors, il n'y a plus d'arbres, les oiseaux ne chantent plus. Dehors, dehors, plus de nuit, plus de jour que l'obscurité. Dehors, dehors, c'est l'enfer. Plus rien, plus de beauté. Et vous savez la pire ironie de cette mort tragique de Rachid Tal ? Il avait confié à un grand quotidien algérien qu'il était atteint de la maladie de Arnold Chiari qui consiste à une malformation du cervelet due à la consanguinité. Ses grands-mères étaient sœurs. Elles avaient le même père et la même mère. Et son père s'est marié avec sa cousine. Toute sa vie, il a souffert de ce syndrome et il n'en a parlé que l'année dernière pour alerter les gens et les exhorter à ne pas se marier entre eux, à se mélanger avec les autres. Tiens, le mélange, comment te retrouves-toi ? Et d'ailleurs, à propos, avec la marche des beurs de 83, il y en a une autre juste après, en 84, ça s'appelait la marche des mobilettes avec ce slogan inaltérable et toujours d'actualité. La France, c'est comme une mobilette. Pour qu'elle avance, il faut du mélange. Et d'ailleurs, chère Anna Karina, est-ce que le cinéma français serait aussi intéressant si un gars de Lausanne n'avait pas rencontré une fille de Copenhague ? Pas sûr.
C'est gentil, ça.
Hippolyte Girardot.
C'est énorme.
Magnifique, merci.
Yes.
Anna Karina est avec nous jusqu'à 18h. Eh oui, le film de Jacques Rivette, Suzanne Simonin, la religieuse. Allez le voir en salle, en HD, en 4K, enfin en super restauré. Et le DVD aussi est disponible. On est ensemble jusqu'à 18h et on écoute Étienne Daho.
Je suis la pluie de Mercure sur ta peau. Je suis ce canoë qui sur ton dos. C'est tiré seul tort tout l'après-midi de manière complexe. Ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Je suis ton totem, ton monstre sacré. Je suis ta tribu, l'agneau sacrifié. La joie
jungle brise de prières étranges, mélodies complexes provoquent des ondulations cosmiques qui laissent perplexe. Sortilèges exquis dans ton vortex, et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Ce soir tous les anges sont voodoo, voodoo. L'astre mauve me pique les yeux. J'épouse tous tes soubresauts périlleux jusqu'aux cieux.
Voodoo, voodoo. C'est Étienne Dao sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Et Anna Karina est notre invitée. Et je rappelle que Anna Karina, qui a aussi votre CD, Je suis une aventurière, qui est sortie au mois de février, avec toutes les chansons Mon amant perdu, Petite Lola, Sous le soleil exactement, bien sûr, et Roller Girl, ou encore Big Hit. Et à cette heure-ci, oh allez, Guillaume
ouais,
Meurice.
Je suis désolé.
Vous connaissez pas, peut-être pas encore Guillaume Meurice, et ça, votre vie ne sera plus jamais pareille.
Oh la pression.
Je le connais depuis au moins un quart d'heure.
Mais
moi.
C'est vrai, ça suffit.
Vous le trouvez gentil
de moi.
Il est gentil, Guillaume Meurice.
Oui, je suis très gentil.
Il est poli.
Mais il a l'air très gentil.
Oui, évidemment, puis, bien sûr.
Il est plutôt bel homme. Hein.
Oh là là, oh là, 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 là. Allez, bam. Oui, allez, je fais pas vrai. Ma chronique, on y va. Non, je vais vous parler de travail. Attention, c'est sérieux. Hein. Je vous parle de travail grâce à Manu, votre nouveau conseiller Pôle emploi. Et sa désormais fameuse petite phrase, je traverse la rue et je vous trouve un boulot. Toujours dans l'apaisement, dans la maîtrise, dans le plus grand des calmes. Il a donc proposé à un horticulteur d'aller bosser dans un resto, méthode qui a fait ses preuves avec Benalla, on en a parlé, parce qu'il s'est retrouvé quand même gérant de la boutique de l'Elysée, alors qu'il a un CAP bagarre, hein, je veux dire, il n'y a pas de saut métier. Je rappelle qu'Anna Karina était catcheuse à Las Vegas et que Hippolyte Girardot, excusez-moi, mais ça fait quand même quelques années qu'on s'est rendu compte que vous n'étiez pas chroniqueur, hein, du tout. Enfin voilà, on sait que vous êtes spécialiste en drogue de synthèse, mais c'est pas grave, c'est le nouveau monde, c'est comme ça, on s'adapte, on chope le travail où il est. Je suis donc allé devant quelques pôles emploi ce matin pour accompagner les chômeurs à cette transformation. Est-ce que ce monsieur sortait bien de Pôle emploi?
Tout à fait. Et je suis rentré bredouille parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver réponse à ma question.
Mais parce que Pôle emploi, ça ne sert plus à rien, on le sait. Parce que vous avez essayé de traverser la rue.
Ben oui, parce que mon vélo est là.
Ah, votre vélo est en face.
Et de l'autre côté de la rue. Alors je suis allé voir Pôle emploi s'ils pouvaient me compter, mais...
Oui, mais alors du coup, si vous retournez en face pour chercher votre vélo, ça va annuler.
Sans doute.
Ah bah oui, alors faites gaffe, oui, faites gaffe à ça. Une fois que vous avez traversé la rue, ne revenez pas. Sinon, ça sert à rien, ça annule l'emploi. Si ça se trouve, c'est ça qui est arrivé à Pénélope Fillon. Elle a voulu retraverser, elle s'est rendue compte de la boulette, était au milieu. Et vous connaissez la suite, emploi fictif, son mari battu, l'action mocassin à gland Davis à la Bourse de Paris, etc., etc. À moins, je dis à moins, attention, c'est technique, hein, je veux bien à moins qu'en retraversant, vous retrouviez un autre emploi. Ça, c'est la technique Alex Vizorek. Hein, il traverse, bim, France Inter, il retraverse, bam, Canal+, il traverse à nouveau, hop, une chronique dans Modes et Travaux et une autre dans le magazine du Facochère. Bon, tac, mais là, c'est assez technique. Je ne conseille pas à tout le monde, il faut
bête,
quelques
hein.
années de pratique.
Ah,
ça
merci.
Peut marcher.
Merci, Anna.
Peut marcher, Anna. On n'est pas dans le jugement, on est là pour expliquer et accompagner les chômeurs. Passons à un autre. Est-ce qu'il a traversé la rue?
Ah ben, je la traverse tout le temps, la rue.
Ah, c'est vrai
donc,
Là, par exemple, est-ce que vous veniez d'en face pour aller au Pôle emploi?
Bah moi j'habite pas très loin, j'habite à deux rues d'à côté donc...
Mais de ce côté-là de la rue.
Oui voilà.
Bah
oui.
Voilà, c'est ça qui va pas, vous n'avez pas traversé la rue.
Bah non, j'ai pas encore traversé la rue.
Bah donc voilà, faut pas se plaindre, on n'arrivera pas au plein emploi si chacun fait pas un effort, il faut traverser, c'est ça qui est important dans la phrase.
Mais c'est rappelle... fatigant.
Mais oui, mais je sais Anna, mais faut s'y mettre. Hein, on est dans une crise, on a besoin de tout le monde, je vous rappelle les principaux tournants dans le monde de l'emploi, l'abolition de l'esclavage, la révolution industrielle et l'invention du passage piéton. Gardez bien ça dans votre tête, soyez concentrés. On enchaîne avec un chômeur motivé, il sort de Pôle emploi et...
J'ai fait même du porte-à-porte.
C'est vrai?
J'ai fait les pizzerias cet été avec mon CV, mais réellement, en leur disant s'ils avaient besoin d'un polyvalent dans la restauration. Alors...
Ouais, mais est-ce que c'était les pizzerias qui étaient sur le même trottoir?
Ah, c'est les pizzerias qui étaient sur les champs, là où vous avez brûlé.
Les pizzerias qui étaient alignées.
Qui étaient toutes alignées.
Mais là, vous n'avez pas traversé la rue.
Comment j'ai pas traversé la rue? Bah, ouais. Je suis descendu tout le boulevard, tous les champs sur la droite. J'ai fait...
Sur la droite.
sur la droite, j'ai fait la pizza YOLO. Non,
mais faut traverser, il a dit, Macron.
Oui, non, mais entre... Attendez, traverser, Macron, est gentil. Il faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles.
Attendez, parce que ça reste à vérifier, ce genre d'information, quand même. Pour l'instant, prendre les gens pour des cons, ça l'a quand même amené à la présidence de la République. Donc, c'est pas si mal. Je rappelle que les sondages de Macron sont corrélés aux audiences de Cyril Hanouna. En ce moment, ça chute. Mais si Castaner retourne en plateau et se met des nouilles dans le slip, ça remonte. Hein. Oh. Ah ben oui, Anna, c'est comme ça. C'est le monde moderne. Faut s'y faire. Et puis Macron, il sait de quoi il parle, parce que c'est un gars qui a changé pas mal de métier. Mais évidemment, bon, le chômeur est toujours en train de râler, quoi.
Entre être conseiller du consortium Rothschild et chercher un boulot de polyvalent dans un restaurant, il y a deux poids, deux mesures.
Il y a la commission Attali, et après il y avait Rothschild, il a traversé la rue, il a trouvé du boulot.
Ouais, mais alors Attali, c'est toujours pareil. Lui, il connaît tout, hein. Il sait tout. Lui, il va tout refaire le monde.
Mais
hein.
Oui, mais pourquoi? Bah parce que c'est comme le reste, parce qu'il s'adapte, Jacques. Il chouine pas quand il faut changer d'employeur. Il peut être pote avec Coluche tout en léchant le cul de Mitterrand, faire le babysitting de Sarkozy. Le gars, voilà, il s'adapte. Si le prochain président c'est Bob l'éponge, il fera le torchon. Il y a aucun problème. Hein, il faut compter sur lui. C'est l'exemple à suivre, je dirais, pour tous les chômeurs. C'est ce que j'essayais d'expliquer à ce précaire, mais évidemment, il s'est énervé.
Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens.
Mais Dieu, c'est qui? C'est Emmanuel Macron.
Bah, s'il veut être Dieu, il sera Dieu.
Mais Jupiter, c'est un Dieu.
Mais allons donc, c'est dans quoi? Dans les BD? C'est dans Tintin et Milou, hein?
Non, mais écoute, si c'est pour dire de la merde, c'est pas la peine. Il y a déjà l'Assemblée nationale pour ça, on est complet. Jupiter dans Tintin et Milou. À la limite, il peut faire Christine Angot. Je dirais, il a le profil, il a la culture. Bon, concluons avec une brave dame qui sortait pas de Pôle emploi, mais qui passait devant. Qu'est-ce qu'elle a pensé de la phrase de Macron?
Il m'a amusé surtout.
Ça vous a amusé? Pourquoi ça vous a amusé?
Non, c'est la façon de le dire. Il a résumé en une phrase ce qu'il pensait, c'est qu'il faut se bouger, éventuellement changer de métier, etc.
Alors le monsieur était horticulteur et...
Oui, il lui propose de travailler dans des bars ou des restos. Si on vraiment veut travailler aujourd'hui et qu'on vous propose quelque chose qui n'est pas dans votre branche, eh bien pourquoi pas?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas des gynécologues, tourneurs-fraiseurs? Enfin, il y en a bien qui sont contre l'IFG. On a bien un président du MEDEF qui est ventriloque du président de la République. Pourquoi pas? Ces gens-là, pour qu'ils se rendent compte de la réalité, il faudrait peut-être les foutre au chômage le plus tôt possible.
Guillaume Meurice, voilà, les présentations ont été faites avec Anna Karina.
À votre service, Anna.
Merci, Guillaume.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci Anna.
Alors, abordons cet autre sujet. Avec la Cinétech, c'est un petit peu l'anti-Netflix, c'est du français, c'est une plateforme internet qui propose des classiques, souvent difficiles à trouver et recommandés surtout par nos plus grands réalisateurs. D'ailleurs, l'algorithme qui régit cette plateforme, c'est simplement le goût et l'envie des réalisateurs qui souhaitent partager des films. C'est beau.
Un véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique.
Oui,
magnifique.
Mais moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique.
C'est-à-dire?
Bah, c'est juste avant la crise de 29, quoi. Oui. Où la récession économique a su apporter une conscience politique aux masses populaires. Et ça, je trouve que ça transparaît pas trop dans le film. C'est ça qui me gêne un peu quelque part.
Non, c'est quand même une gageure de ressortir un film muet, qu'en pensez-vous?
Non, pas du tout! Non, c'est ce qui fait toute la force du film!
Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art.
Oui, bien sûr.
À tel point que je regrette personnellement que certaines de nos comédiennes aujourd'hui ne soient pas muettes.
Oui.
Et je ne citerai pas de nom.
Les inconnus. Alors, c'est un article que nous avons vu sur le site internet de Marianne. Donc, la Cinétech, ça existe depuis plusieurs années. Mais depuis une semaine, pour moins de 3 euros, 2,99 euros, et là je fais de la pub parce que c'est super, le forfait donne accès pendant un mois à 10 classiques du cinéma par thème, et souvent recommandés par les réalisateurs qui disent « Ah, mais moi j'adore ce classique-là, j'aime bien celui-là, celui-là est très difficile à trouver et on y a accès. » C'était à l'initiative de Laurent Cantet. Alors, on se disait, c'est vrai qu'avant, il y avait des ciné-clubs à la télévision, et puis beaucoup, peut-être plus de ciné-clubs tout court. Et il y a des classiques qui sont difficiles à trouver. Alors ici, par exemple, La Religieuse de Rivette, on a la chance qu'elle ressort en version restaurée. Mais comment est-ce que la transmission, elle se fait aujourd'hui? Comment est-ce que les jeunes peuvent avoir accès aux classiques? Comment est-ce qu'on les retrouve? Et peut-être vous, est-ce que vous avez une DVD tech?
Mais il faut aller à la Cinémathèque.
Mmh. Ah, déjà.
Oui, vous êtes parisien.
Après, oui.
Oui, vous êtes parisien.
Ou les ciné-clubs dans les...
Ou traverser la rue.
La rue.
On en revient toujours, là.
ou les ciné-clubs dans les plus petites villes, mais...
Les clubs, difficile. Maintenant, c'est un peu compliqué, en fait, parce qu'il y a problème de droit, etc. Je trouve que l'initiative est géniale, parce que on est quand même vraiment dans un
dans un registre de cinémathèque. Et en même temps, c'est assez passionné parce qu'à chaque fois, c'est des cinéastes qu'on connaît, qu'on voit leurs films aujourd'hui. Et en fait, ils racontent un peu par quoi et ils ont été influencés ou qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et c'est intéressant. C'est une playlist, en fait. Mm-hmm. Et c'est assez beau de voir les goûts de chacun aussi.
Justement, votre playlist, comme on dit à Anna Karina, si cette plateforme, elle vous appelle et elle dit à Anna Karina, qu'est-ce que... Voilà, quels sont les grands classiques que vous aimeriez transmettre? Et sous votre nom, il y a, allez, 3-4 films.
Mais j'ai l'impression que ça n'intéresse pas tellement les jeunes.
Ah, vous croyez?
Ah, si, ah, je crois que oui.
Les films de Renoir, les films de...
Lesquels de films de Renoir, par exemple?
La règle du jeu.
Mais oui, il y en a plein.
Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, vous êtes encore cinéphile? C'est-à-dire que vous allez encore chercher des films plus rares de certains réalisateurs que vous aimez,
mais
que vous découvrez?
Ah, mais oui, c'est ça. Vous à l'époque, la Cinémathèque.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a
avec
tout
Jean-Luc Godard, Romère, Rivette et compagnie, quoi.
Il n'y a pas un film avec Hippolyte Girardot qui vous plaît?
Ah, Guillaume, tu fais la merde. Mais on peut, c'est le genre de film aussi qu'on peut revoir.
Non, mais on peut aussi les acheter en DVD.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Et pour si. Ouais. Ah oui, par exemple, le film avec Gabin, là.
Bienvenue chez les Ch'tis.
Non.
Mais je confonds.
Non, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien Bienvenue chez les Ch'tis.
Eh bien voilà, on a un film déjà de la playlist.
Ouais. Pas encore. Un classique, non. Non, là où il ne peut pas s'en. Empêcher de tuer, là, c'est
la bête humaine.
La bête humaine, par exemple.
Voilà, donc il y aurait la bête humaine.
Vous trouvez plein de films comme ça, quand même, si vous allez les chercher, dans des petites boîtes comme ça.
Mais regardez, une occasion de transmettre, c'est justement le biais de la restauration des films. Quand on nous dit, ah, il a été restauré, il est en 4K, moi je ne savais pas ce que c'était, etc. Mais ça permet de découvrir ou de redécouvrir. Ça recrée un événement, en fait, de ressortir en salle ou de restaurer un film.
Mais oui, mais il y en a quand même des films, même. Bon, c'est peut-être pas des grands classiques, mais des films avec Fernandel et tout ça, qui ont été mis en couleur et tout ça. Donc, il y a eu du travail.
Oui.
Mais de là, et c'est clair que des grands films, voilà, c'est Napoléon et tout ça, je sais pas.
Et tiens, si on passait un peu à la lecture, Anna Karina, avec à vos côtés Juliette Arnoux.
Oui,
nous propose un livre, souvent, des livres.
Et aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle « Blackout ». Comme son nom ne l'indique pas tant que ça, Blackout est un livre français écrit par une journaliste française qui vit à Los Angeles depuis quelques années et qui traite d'une passion spécifiquement hollywoodienne. Non, ça n'est pas la passion harcèlement sexuel, encore plus flippant, c'est la passion du serial killer.
Pardon ?
Du serial killer.
C'est gay, hein ?
Un quoi ?
C'est très gay.
Serial killer.
Hein,
un serial killer, un tueur en série.
Ah, voilà.
Exactement.
Voilà.
Un serial killer.
Oui.
Voilà. C'était un extrait de la Cité de la Peur entièrement
c'est
bruité
pas très gay,
à la bouche.
Mais Juliette n'est pas très gay. Hein.
Non,
on la connaît, c'est pas bien. Mais...
Elle la prend pour plomber l'ambiance.
C'est très mais c'est noir.
Pas, c'est pas de ma faute si Hollywood raffole des tueurs en série. Alors, on a eu David Fincher et le tueur du Zodiac. On a eu Spike Lee avec le fils de Sam. On a eu 2500 films, téléfilms, séries sur Charles Manson. Peut-être ça fait beaucoup, mais Tarantino, qui devait penser que c'était pas suffisant, s'y colle dans son prochain film. Cécile Delarue, la journaliste et l'auteur, a beau vivre là-bas, de son plein gré, à Los Angeles, quand elle se penche sur le cas du Grim Sleeper, elle fait ce truc archi-classe qui consiste à refuser d'être fascinée par le tueur. C'est aux victimes que va son intérêt. Et c'est pas dommage. Ici, les victimes, dans ce livre, elles ont des noms, même si elles sont nombreuses. Elles ont un âge, elles ont des familles. D'ailleurs, ces victimes, elles avaient toutes le même profil. Des femmes, noires, marchant dans la rue, la nuit, à South Central. Entre le début des années 80 et le début des années 2000. On sait que le Grim Sleeper, il en a tué au moins 10, au moins, sur 30 ans. Il les a violés, puis il les a tués. Le gars a pris son temps, on lui a laissé le temps de prendre son temps, et puis finalement, la police finit par le choper, il sera condamné à vie. Ils vont retrouver dans son petit bureau de père de famille, le LAPD va trouver plus de 1000 photos de femmes. Toutes les preuves possibles, armes, balles, de la pornographie, le gars c'était Barbe Bleue. Il se taira jusqu'au bout, il plaide non coupable. Les journaux titrent, c'est le Grim Sleeper, c'est un monstre, fin de l'histoire. Cécile Delarue trouve que c'est trop facile le coup du monstre, alors elle cherche, elle fouille, elle interroge. Parce que The Monster, c'est aussi une expression employée par un policier de South Central pour décrire les années 80-90 de ce quartier, entre guerre des gangs, Bloods contre Crips, 15 000 morts quand même. Et l'épidémie de crack. Et ça, carrément, on ne peut pas le dénombrer, le nombre de morts. Bref, le champ des non-coupables commence à s'élargir. Puis il y a la piste marxiste aussi, qui est citée par un spécialiste américain du LAPD. Il dit, je le cite, « Pour moi c'est très simple, c'est une question de pauvreté. On a la police qu'on mérite, et à Los Angeles, quand on est pauvre, on n'a pas une bonne police. » Et quand on vit à Los Angeles, c'est le sud de la ville, dont South Central fait partie, qui est dédié aux populations noires. Enfin, dédié, ça c'est pour faire joli, hein, parce qu'en vrai, c'était obligatoire, jusqu'aux années 60. Ah, la sainte mythologie américaine, le self-made man, et à rebours, son antéchrist. Celui qui est tombé dans la dépendance, ou se retrouve sur le trottoir, voire les deux, un paria qui a mérité son purgatoire. Il n'a pas essayé, il n'a pas assez prié, il n'a pas réussi, tant pis pour lui. Et pire encore, antéchrist au cube, ces femmes-là, noires, femmes qui marchaient la nuit et dont les flics et les témoins disent « elles n'avaient pas qu'à se promener la nuit et monter dans la voiture d'un étranger qui plus est ». Parmi les victimes, il y a une survivante, Enietra. Son portrait, car Cécile Delarue l'a rencontrée, est dément. Enietra est une grande gueule, comme en fait toutes celles qui y sont passées et elle a été laissée pour morte. Elle a survécu avec une balle dans la poitrine. Simone de Beauvoir, une autre Simone, disait « Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur ». J'en accepte l'augure. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud. Rappelez-nous l'éditeur.
Alors, c'est chez Plein Jour. Elle s'appelle Cécile Delarue. Son roman s'appelle Blackout.
Merci Juliette. Allez, on aborde une dernière question. Au Danemark, une école maternelle sur 5 fait classe au milieu des bois. Alors, les enfants manient la scie et le couteau. Ils grimpent aux arbres et surtout, ils s'éveillent à la nature. Écoutez.
Les 4 premiers qui sauront me dire où se lève et où se couche le soleil seront chefs de groupe et auront une boussole. Alors, qui sait où se lève et où se couche le soleil? Toi, vas-y, dis-moi où il se lève, le soleil.
Il se lève dans ma cuisine et il se couche dans la chambre de mes parents.
C'est Coluche, le maître d'école de Claude Berry, bien sûr. C'est un article du journal Le Monde qui est paru au début du mois. Et c'est vrai que dès l'âge de 4 ans, nous, on enferme les gamins et on les entasse dans des salles de classe. Et au Danemark, il y a 700 écoles maternelles qui sont installées en pleine nature. Nous, ça nous paraît révolutionnaire. Pour vous, Anna Karina, c'est presque normal?
J'en sais rien.
Vous savez pas. J'ai pensé à ce sujet parce que vous avez fait un peu l'école buissonnière. Est-ce que votre école, c'était pas le port de Copenhague en allant voir votre grand-père? Mais vous auriez appris plein de choses
oui,
là-bas.
Mais il fallait que j'aille à l'école avant tout le monde. Donc même l'hiver, j'étais dans la neige devant l'école. C'était même pas encore ouvert parce que mon grand-père dit il faut jamais être en retard. Voilà.
C'est quoi votre rapport au Danemark aujourd'hui? Est-ce que là-bas vous êtes...
Moi, on m'a donné un prix là-bas.
Très bien, c'est le minimum.
Tu vois, un César, quoi. Mais non, j'ai plus de famille. Non,
votre Heimat, votre chez-vous, c'est la France.
Ah ben oui, ça fait plus de 60 ans.
Non, parce qu'on voulait vous expulser, mais vous pas rester.
Oh, ça c'est pas sympa.
Anna Karina, on a compris que vous aimiez rire, et c'est un plaisir de rire avec vous, justement. Alex Vizorek a quelque chose à vous proposer. Je pense que si vous avez des lunettes de vue... Comme la plupart d'entre nous autour de cette table. Mais...
À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec
ah,
nous.
Mais je peux pas là, j'ai pas.
Ah, vous avez pas les lunettes de vue.
Alors on a une version, grande lettre, évidemment, parce qu'on a pensé à vous, évidemment.
Regardez.
Ah, AK, c'est vous.
Est-ce que ça va?
Sinon, Juliette fait le rôle d'Anna Karina.
Ah oui, oui.
Vous arrivez à lire, Juliette. Anna?
Non.
Juliette, il est là, le texte. Guillaume,
tu peux. Hop là. Voilà.
Okay, eh bien, alors, vous allez suivre ce qui se passe à. Juliette va le faire.
Ok.
Nous sommes au magasin de l'Élysée.
Ah, peut-être avec les lunettes d'Hippolyte.
Parce qu'on tente quelque chose. Amis auditeurs, ne partez pas.
On tente un truc avec les lunettes d'Hippo.
Moi, je pense que c'est mieux si Juliette nous fait le rôle comme ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anna? Est-ce que ça marche avec les lunettes d'Hippo?
Oui, ça marche.
C'est parti.
Vous êtes vendeuse au shop de l'Élysée avec Guillaume Meurice et il y a des clients qui viennent vous acheter des goodies. On se lance.
Allez, approchez, messieurs, dames, approchez.
Il est beau, mon mug. Il est beau.
N'en faites pas trop quand même, c'est juste un mug. Hein.
Mais c'est pas juste. Un mug, il est décoré d'un portrait officiel d'Emmanuel Macron.
Sans doute pour rêver que les mécontentements se tassent.
On n'est pas là pour faire des mauvais calembours. Voici un premier client. Ah.
Bonjour, je voudrais la broche, venez me chercher.
Ah, vous faites erreur, hein, madame.
Nicolas Sarkozy n'est plus président, mon pote.
Mais
la République.
Mais vous êtes sûr?
Ah, je vous l'accorde, le style n'a pas beaucoup changé, mais...
Si vous voulez, nous avons la broche poutre de... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?
Perlimpinpin, c'est la broche poutre de Perlimpinpin.
Mmh. Ou la broche croque-guignolesque.
C'est ça.
Oui, et pourquoi pas saperlipopette ou ventre bleu tant que vous y êtes.
Et un manier pour faire frigidaire.
Faites voir.
Oui, il est écrit « Met our magnet, greet again ».
Et la planète, alors on s'en fout.
Non, mais ne me dites pas que vous êtes une gauloise réfractaire. Hein.
J'ai pas les bons...
Ah, parce que c'est pas Hippolyte, là.
Hippolyte Girard, c'était
au... Ah, il est au point, ce
bonjour, et... Bonjour, moi, je voudrais le passeport la couleur de la France.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah !
Hein ?
Je pense que
on est
complètement
pages.
Perdu. Il y a 10 pages.
C'est un sketch qui ira dans le bêtisier.
Tout à fait.
On n'a pas surligné sur la page d'Anna Karina.
Non, mais bon. Parce qu'elle a pas.
Et si on estimait que c'est un échec absolu aujourd'hui.
On y va. Chacun dit une réplique, on s'en fout, ça va marcher.
Là, il va falloir revenir.
Je laisse tomber.
Il va falloir revenir.
Non, parce on le répétera.
Alors, pour le coup, c'est vraiment pas la faute de l'invité.
Ah non, non,
non. Et puis je voyais pas bien les.
Non plus.
Il y a eu.
Moi, j'étais même pas au courant.
J'ai dit qu'elle était catcheuse à Las Vegas. Hein. J'ai dit qu'elle n'était pas comédienne, la dame.
Anna Karina, malgré les embûches.
Il est beau, maman.
Rivette vous a donné des meilleurs rôles que nous, je pense. On va pas se mentir.
Non, tu te fais du mal, Alex.
Merci, Anna Karina, d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous. Hein.
Ah, c'était un moment.
Vous êtes adorable.
Formidable.
Et très drôle.
Merci, on était ravis. Alors, donc, je rappelle, le film de Jacques Rivette, Suzanne Simonin, la religieuse, ressort dans les salles et en DVD dans la version restaurée. Et pour écouter les chansons d'Anna Karina, outre évidemment l'album avec Philippe Catherine, il y a cet album qui est sorti en février, Je suis une aventurière.
Que vous allez présenter au Japon.
Laurent Pallet. Londra.
On salue Lolo.
Et vous allez au Japon le présenter.
Le producteur.
Bien sûr.
Allez, demain.
Oui. Mon agent et mon ami.
Ah ben on l'embrasse alors. Et on se retrouve demain avec Laurent Ruquier.